Il est 6h.
Christophe Ondelat sur Europe 1.
Bienvenue à ceux qui débarquent dans ce programme, le menu de la deuxième heure d'Ondelat raconte, avec le journal dans un instant. Bonsoir Isabelle Millet.
Bonsoir Christophe.
La grande affaire du jour, c'est bien sûr la révélation des 150 pages qui constituent les ordonnances qui vont réformer le droit du travail. Et je recevrai tout à l'heure Luc Berry, le secrétaire général de l'UNSA. L'homme de conviction du jour est le politologue insoumis Thomas Guénolé, qui lui aussi tient absolument à parler de la réforme du code du travail, donc vous allez en manger. Le journal du Monde ensuite va nous emmener en Argentine, où un jeune manifestant, figurez-vous, a disparu en pleine manif. Ça nous ramène à la pire époque de l'histoire argentine. Et puis les fourberies de Benjamin Muller tout à l'heure, il a écouté la concurrence toute la journée. Donc, Isabelle Millet, ce sont les ordonnances qui font la une ce soir. On en connaît enfin le contenu.
Eh oui, enfin, ces ordonnances qui vont permettre de réformer le code du travail, enjeu majeur pour l'exécutif, attendu au tournant bien sûr par les syndicats. Dialogue social, prud'homme, indemnité de licenciement, on vous dit tout dans un instant. Un homme de 34 ans en garde à vue en Isère dans l'enquête sur la disparition de Maëlys. Les gendarmes veulent clarifier les incohérences apparues dans ses précédentes déclarations. Un cadre du Parti Socialiste en soins intensifs ce soir. Il a été agressé par un député de La République En Marche. C'est la hantise des parents d'élèves et des profs, des classes surchargées. Eh bien, cette année, ils vont être particulièrement gâtés. Le foot, les Bleus ont la pression s'ils veulent se qualifier pour la Coupe du Monde. En Russie, il vaut mieux, vraiment beaucoup mieux, qu'ils battent les Pays-Bas ce soir. Notez que la Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,58%. Le CAC 40 est à 5086 points.
Jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait vu la totalité du texte qui constitue les ordonnances qui vont donc réformer le droit du travail. Ça y est, on a le texte.
On l'a, 159 pages, même je peux vous dire 36 mesures. Alors rassurez-vous, on ne va pas toutes vous les détailler aujourd'hui, seulement les principales. Bonsoir Olivier Samin.
Bonsoir.
Une grande partie, Olivier, de ces mesures touche à l'organisation au sein des entreprises et elle pourrait changer le quotidien des salariés. Alors il y en a certaines qui étaient particulièrement attendues, comme le cas du plafond et du plancher des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif.
Oui, alors Isabelle et Christophe, si vous traînez votre patron au prud'homme et si les prud'hommes jugent qu'il vous a abusivement licencié, eh bien vous toucherez des dommages d'intérêt qui ne dépasseront pas 20 mois de salaire. Et encore 20 mois de salaire si vous avez...
Même si on a passé 30 ans dans la boîte, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'est si vous avez beaucoup d'ancienneté. Si vous êtes entré plus récemment dans l'entreprise, le plafond sera plus bas, le barème est progressif. Alors, le patronat obtient donc ce qu'il réclamait, un plafonnement des dommages et intérêts. Mais il y a trois cas dans lesquels ce plafonnement ne jouera pas. En cas de discrimination, en cas de harcèlement moral ou sexuel et en cas d'atteinte à une liberté fondamentale, là, la réparation restera intégrale.
Alors, autre point très sensible aux yeux des syndicats, Olivier Samin, les modalités de négociation dans les plus petites entreprises.
Eh oui, pouvoir négocier un accord dans une PME sans être obligé de passer par un syndicat. C'était une demande insistante du patronat. Demande exaucée dans les PME de moins de 50 personnes. Le patron pourra négocier avec un élu, même s'il n'est pas mandaté par un syndicat. Et dans les entreprises de moins de 20 personnes, la négociation pourra même se faire avec un simple salarié. Autre demande forte des patrons, fusionner les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT pour ne pas perdre de temps dans des réunions interminables. Là aussi, demande exaucée. Dans les entreprises de plus de 50 personnes, eh bien, la règle, ce sera une seule instance qui s'appellera le comité social et économique.
Et puis l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron était de renvoyer un maximum de sujets à négocier sur le terrain, dans les entreprises. Est-ce qu'il est allé au bout de cette logique?
Alors oui, il y a un certain nombre de sujets nouveaux qui pourront désormais être négociés effectivement au niveau des entreprises. La prime d'ancienneté par exemple, ou le 13e mois, il faudra quand même que la branche l'autorise. Mais les ordonnances ne vont pas vers le tout à l'entreprise. Le rôle des branches professionnelles est renforcé sur un certain nombre de domaines. C'était une demande de plusieurs syndicats, notamment la CFDT et FO. Et le gouvernement leur a donc envoyé ce signal.
Eh bien, merci Olivier Samain. Alors, sans surprise, le MEDEF est plutôt satisfait de ces mesures. Pierre Gattaz estime que cette réforme est une première étape importante pour conforter la confiance des chefs d'entreprise et faire bouger les lignes. À l'inverse, Philippe Martinez de la CGT dénonce la fin du contrat de travail. Il maintient son appel à manifester dans tout le pays le 12 septembre.
Et je recevrai dans un instant Luc Berry, qui est le secrétaire général de l'UNSA, qui est le syndicat autonome. Et vous entendrez d'ailleurs aussi la réaction tout à l'heure Thomas Guénolé, qui est rallié à la France insoumise et qui sera l'homme de conviction du jour. D'un point de vue politique, maintenant, Emmanuel Macron jouait gros sur cette réforme.
Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Alors, est-ce qu'on peut déjà dresser, Maxence, un premier bilan ce soir ?
Eh bien oui, Matignon ne veut pas parler de soulagement, mais on sent bien que les conseillers du Premier ministre sont assez détendus ce soir. Pourquoi ? Parce que finalement, combien de syndicats appellent à manifester la semaine prochaine ? La CGT, Sud Solidaire, deux organisations, alors qu'ils étaient une dizaine à se battre contre la loi El Khomri l'an dernier. Force Ouvrière, par exemple, n'appelle pas. La mobilisation Jean-Claude Mailly constate juste des points de désaccord. Même chose à la CFDT, Laurent Berger se dit déçu, mais voilà, pour lui, le combat syndical ne se résume pas à la rue, il s'exerce tous les jours dans les entreprises. Pas de barricade, donc, ce soir, pas non plus d'unanimité des syndicats, et ça aussi, ça arrange le gouvernement. Autrement, on aurait dit que c'était une réforme pour rien. Le gouvernement s'en sort, donc, pour l'instant, et ce pour trois raisons. Parce que cette réforme figurait dans le programme d'Emmanuel Macron, et que le suffrage universel est passé, c'est le jeu. Parce que la méthode de concertation pendant trois mois a permis de calmer les esprits. Les syndicalistes ont mis la main à la pâte, ils ont un peu la sensation du travail accompli ce soir. Et puis parce qu'il n'y a pas une mesure choc qui peut cristalliser les tensions, mettre le feu à la rue. Ce n'est pas aujourd'hui, par exemple, la fin du CDI, mais plutôt une réforme assez complexe, difficile à appréhender. Alors ça ne veut pas dire que la messe est dite, hein. On va maintenant assister à un match médiatique avec d'un côté les insoumis de Jean-Luc Mélenchon qui vont tout donner pour mobiliser et de l'autre le gouvernement, le président qui vont se démultiplier avec un mot-clé, la pédagogie.
Merci, merci Maxence Lambrecq. Peut-être une piste maintenant, 4 jours après la disparition de la petite Maïlys en Isère.
Un homme est en tout cas en garde à vue depuis ce matin. Les gendarmes veulent visiblement vérifier, Pierre de Cossette, certaines incohérences relevées lors d'une première audition.
Oui, toute évidence, il y a quelque chose qui ne colle pas, Isabelle, dans l'attitude et les déclarations de cet homme. Pas invité au mariage, en tout cas pas officiellement, pas de faire part, plutôt une proposition informelle de passer en fin de soirée. Et ce qui a intrigué un certain nombre de convives, ensuite, c'est son absence pendant une heure environ, un créneau qui correspond au milieu de la nuit à la disparition de la petite Maïlys vers 2-3 heures du matin. Alors dit comme ça, ça intrigue, d'autant que ce que cet homme a dit une première fois aux gendarmes comme témoin quand il a été entendu comme des dizaines d'autres personnes, entre ces éléments-là et donc ce recueilli par les enquêteurs depuis, il y a semble-t-il un hiatus. Alors attention, la procureure nous invite à la plus grande prudence, l'objet d'une garde à vue c'est précisément de faire des vérifications. Voilà donc cet homme de 34 ans, connu pour stup, questionné depuis ce matin par les gendarmes de la section de recherche de Grenoble. A-t-il tout dit ? A-t-il caché les choses ? Si oui, était-ce volontaire et pourquoi ? C'est ça qui intéresse les enquêteurs. On sait que cet homme était de retour parmi les invités quand les recherches ont commencé vers 4 heures du matin. Il y a donc beaucoup de choses à comprendre avant de lui coller une étiquette sur le front.
Merci beaucoup Pierre de Cossette.
Garde à vue également dans l'affaire Pierre-Ambroise Bosse, vous savez le champion du monde du 800 mètres qui a été agressé.
Et il souffre d'ailleurs de multiples fractures au visage après donc avoir été frappé par plusieurs individus le week-end dernier sur un parking près du bassin d'Arcachon. Il est même contraint d'arrêter sa saison sportive. Alors un homme de 24 ans a été interpellé. Il conteste la version des faits donnée par l'athlète. Ce suspect est déjà connu pour trafic de stupéfiants et pour violence.
Imaginez une classe, parce que tout le monde est allé à l'école, tout le monde peut imaginer ce que c'est qu'une classe avec 39 élèves assis devant un seul professeur. Ça ressemble à un cauchemar. On plaint les élèves en question, on plaint les enseignants, et pourtant, il va falloir s'y habituer.
Oui, c'est
ou
le
pas.
SNES, le principal syndicat enseignant du secondaire, qui le dit aujourd'hui à quelques jours de la rentrée. Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir.
Vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1. Alors, le nombre de classes surchargées va-t-il vraiment se multiplier pour cette rentrée ?
Eh bien, ce sont les remontées de terrain du SNES, donc le principal syndicat du secondaire. Ils ont calculé qu'il y avait 25% de classes surchargées, entre 35 et 39 élèves il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est environ à 40%. Donc 40% de classes devant lesquelles on va devoir faire du discours magistral, pas du tout de la pédagogie différenciée. Hein. Il faut s'adresser à une classe gigantesque. Ça, c'est assez compliqué. Ça veut dire environ 40 000 élèves de plus qui arrivent à la rentrée sur les bancs de l'école. Et pour les professeurs, c'est très compliqué. C'est ce que nous dit par exemple Benoît Test. Il est secrétaire général de ce syndicat, le SNES.
Le vrai problème, c'est effectivement que devant 38 élèves, devant 39 élèves, on fait du cours comme on peut, c'est-à-dire de manière un peu magistrale, avec impossibilité de s'intéresser finalement aux progrès, aux évolutions de chaque élève. On ne fera de l'aide individualisée que de 4 à 5 par petit groupe, et on prendra les élèves ensuite pour leur expliquer le cours qu'on n'a pas pu leur expliquer individuellement. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que c'est aussi pendant l'heure de cours qu'il faut qu'on arrive à avoir un traitement individualisé et différencié si on veut travailler correctement.
Alors Virginie Salmen, comment est-ce qu'on explique ça, 40% d'enfants dans des classes de 35 à 39 élèves, presque la moitié, ça s'explique comment?
Alors c'est l'effet démographique, donc c'est le boom des enfants de l'an 2000 qui arrive aujourd'hui en terminale. Il y a aussi un petit effet démographique en 6e, ils seront assez nombreux à la rentrée en 6e, donc 40 000 élèves de plus, je vous le disais, à la rentrée. Et puis aussi, il n'y a pas assez de profs, le SNES dénombre 1300 enseignants manquants. Donc ce qu'ils demandent par exemple, ce qui pour eux serait la mesure de bon sens, c'est d'aller pré-recruter, c'est-à-dire dans les départements comme la Seine-Saint-Denis, où il manque beaucoup de profs, où sans doute des jeunes ont envie de devenir prof. Eh bien, allez leur dire, si vous voulez, on vous paye une partie de vos études, c'est possible, toi tu peux devenir prof, et comme ça leur donner la vocation, l'idée que c'est possible et que eux-mêmes, dans leur territoire, là où on en a le plus besoin, on peut directement recruter des enseignants.
Merci Virginie Salmen. Dans un instant, une histoire absolument incroyable, quand un député de La République En Marche balance un nion à un responsable socialiste. Un nion.
Christophe Ondelatte sur Europe 1. Christophe Ondelatte sur Europe 1.
Il est 6h12 et voici l'histoire d'un député qui s'est comporté comme un voyou.
Ce député, c'est Majib El Gherab. Il est député La République En Marche et il a violemment agressé hier après-midi à Paris le premier secrétaire de la Fédération Socialiste des Français de l'étranger, Boris Faure. Et l'affaire est grave. Bonsoir Salomé Legrand.
Bonsoir.
Boris Faure est en effet ce soir en soins intensifs. Que sait-on, Salomé, de cette agression?
Eh bien, les circonstances ne sont pas claires. D'après un témoin cité par l'hebdomadaire Marianne, les deux hommes se sont croisés a priori spontanément dans la rue Broca, c'est la rue dans laquelle Majib El Gherab réside. Ils se connaissent, ils ont été amis, camarades, même collègues au sein du Parti Socialiste, jusqu'à ce qu'ils se brouillent lorsque El Gherab a rejoint, il y a quelques mois, La République En Marche. Leurs relations sont alors devenues tendues et presque haineuses. Majib El Gherab explique que Boris Faure l'a pris à partie directement hier. D'après lui, il l'aurait insulté, des insultes racistes, dit-il. Il lui aurait même saisi le poignet et c'est là que, pour le faire lâcher, Majib El Gherab aurait alors asséné deux coups avec son casque de moto qu'il tenait dans l'autre main, deux coups pour le faire lâcher, des coups portés à la tempe. Ce sont des vigiles d'un établissement voisin qui se sont interposés, mais Boris Faure était déjà à terre. Il a été transporté à l'hôpital, mais d'après ses proches, son état s'est dégradé. Il a été opéré ce matin et est toujours sous surveillance en soins intensifs. Une enquête a été ouverte dès hier par le parquet de Paris pour violence volontaire aggravée.
Merci Salomé Legrand. On vous parlait hier de cette usine chimique française à Houston au Texas qui menaçait d'exploser. Eh bien ce soir, la situation est plus que jamais préoccupante. Hein.
Et on va retrouver tout de suite en direct sur place Xavier Yvon, envoyé spécial d'Europe 1. Xavier, on a parlé ce matin d'explosion dans cette usine qui fabrique, on le rappelle, des peroxydes organiques. C'est un composé qui entre notamment dans la composition de plastique. Alors vous êtes sur place, Xavier, expliquez-nous ce qu'il se passe.
Alors, ce qu'il se passe, c'est que des produits chimiques stockés dans l'usine ont commencé à brûler. Ils doivent normalement être réfrigérés, mais ils ne le sont plus à cause de l'eau qui a inondé le site et donc coupé l'électricité. En plus, il fait très chaud désormais sous le soleil du Texas qui est revenu, ce qui n'arrange rien. Les explosions entendues cette nuit correspondent en fait à des réactions qu'ont expliqué les autorités. Elles ont tenu une conférence de presse tout à l'heure devant la caserne de pompiers où je me trouve. Écoutez les précisions de Richard Reynard, l'un des responsables de l'usine catapulté devant les caméras.
Ça n'est pas une fuite chimique, c'est un incendie. Et quand vous avez un incendie avec des produits chimiques, il y a ce qu'on appelle une combustion incomplète. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fumée et que cette fumée risque d'irriter vos yeux, vos poumons ou votre peau.
Alors, il y a eu la confusion sur la nocivité de cette fumée qui a eu des parts de très dangereuse. Clarification, il y a quelques instants, de l'Agence fédérale de l'environnement qui a survolé le site et fait des mesures. Il n'y a pas de concentration d'émanations dangereuses. Par précaution, la zone
évacuée dans un rayon de 2,5 km. Je me trouve juste à l'extérieur de ce périmètre de sécurité. Il n'y a rien à faire. il faut attendre, disent les autorités, laisser brûler les 8 containers de produits chimiques avant de pouvoir faire revenir la population.
Eh bien, merci beaucoup Xavier Yvon. Vous êtes donc l'envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Houston au Texas.
Une petite révolution qui a été confirmée ce matin. À partir du 1er janvier, 11 vaccins seront obligatoires au lieu de 3 aujourd'hui pour tous les bébés français. Tous !
Tous, absolument. Bonsoir Benjamin Lévesque.
Bonsoir Isabelle.
Alors l'objectif, Benjamin, c'est de lutter contre la recrudescence de certaines maladies.
Oui, alors aujourd'hui, les enfants sont obligatoirement vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Et à partir du 1er janvier, polio, tout simplement.
Ça aide.
Et à partir du 1er janvier, eh bien, il y en aura 8 de plus qu'ils sont pour l'instant juste recommandés, comme la rougeole, la coqueluche ou encore l'hépatite B. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est pour protéger en fait tous les enfants, prenons le cas de la rougeole, ceux qui ne sont pas vaccinés, eh bien, risquent de contaminer les autres. Alors a priori, l'obligation ne devrait concerner que les bébés nés en 2018, pas ceux nés avant, mais tout cela reste encore à arbitrer. Alors il faut savoir que 80% des enfants reçoivent déjà les 11 injections et donc cette décision ne concernera qu'un bébé sur 5.
Mais alors quand même, on sait que certains parents sont totalement hostiles, ils sont réticents. Que risqueront-ils ces parents, Benjamin, s'ils refusent de faire vacciner leurs enfants ?
Alors, en théorie, ses parents risquent jusqu'à 6 mois de prison et 3 750 € d'amende. Alors, à un moment, il était question d'une clause d'exemption, c'est-à-dire de permettre à des parents qui sont farouchement opposés de ne pas vacciner leur enfant. Alors, cela reste dans des cas exceptionnels, mais la ministre de la Santé n'est pas favorable à cette clause, d'autant plus qu'on ne sait pas si juridiquement c'est possible.
Donc, vaccination pour tout le monde à partir du 1er janvier. Merci Benjamin Lévesque. Et puis, la ministre de la Santé a aussi confirmé la hausse progressive du prix du paquet de cigarettes qui atteindra 10 euros, dit-elle. D'ici 2020, elle souhaite l'augmenter d'un euro par an.
Les Bleus, c'est du football, jouent ce soir et c'est pas un match amical.
Oui, ils ont intérêt à gagner. En tout cas, ils ont la pression face aux Pays-Bas au Stade de France pour ce match en vue d'une qualification directe pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Bonsoir Cyril de la Morinerie.
Bonsoir Isabelle.
On rappelle Cyril que la France est deuxième de son groupe. Rien n'est perdu donc, mais l'enjeu c'est de rester dans la course absolument face à des adversaires qu'il va falloir prendre très très au sérieux.
Ah oui, c'est la mythique équipe orange. 3 finales de Coupe du Monde, et notamment la dernière en 2010. Et parmi les grands anciens qui ont participé à cette aventure, un certain Robben. Vous savez, c'est ce fameux joueur du Bayern Munich au crâne chauve qui court à toute vitesse. Il est toujours là, c'est le capitaine, l'âme de cette équipe néerlandaise. Il a 33 ans, 33 buts inscrits en sélection, autant qu'un certain Johan Cruyff. Et cette semaine, eh bien, il a tenté de galvaniser son équipe. Ayez confiance en vous, ne vous sous-estimez pas, a-t-il dit donc à ses coéquipiers. Mais les Bleus, eh bien, ils sont confiants, ils restent sur 3 succès contre les Hollandais. Il y a cette victoire en match amical contre l'Angleterre qui a fait beaucoup de bien. Sur les côtés, il y a de très bons joueurs, le monégasque Lemar, le munichois Coman. Giroud a toujours répondu présent, 27 buts dont un dernier magnifique contre la Suède qui malheureusement n'a servi à rien. Et puis il y aura évidemment un Stade de France plein avec un tifo géant, des drapeaux, et ça compte le public quand il faut se sublimer.
Et on suivra ça avec vous bien sûr à partir de 20h45, Cyril de la Morinerie, match en fil rouge sur Europe 1 depuis le Stade de France. Et puis après avoir beaucoup acheté, le PSG vend l'un de ses joueurs, Serge Aurier, défenseur international ivoirien qui s'est engagé.
Il a un bon public sur Periscope, lui.
C'est vrai.
Vous vous souvenez ?
On se souvient de l'histoire. On va pas la répéter. En tout cas, il signe pour 5 saisons avec le club anglais de Tottenham. Et puis l'OM, l'Olympique de Marseille, a trouvé un accord avec le Benfica Lisbonne pour le transfert du buteur grec Konstantinos Mitroglou. In extremis, l'OM a donc trouvé enfin l'attaquant qui lui manquait.
Et le mercato,
c'est la fin.
C'est fini ce soir. Et il était temps, et peut-être que ça se fera désormais avant la clôture du championnat.